Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Nous sommes en guerre.
Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe.
Ah, ça va me coûter combien ?
Je m'en fiche. Royalement, totalement, présidentiellement.
Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie.
On a aujourd'hui un illusionniste en face de nous, Jean-Luc au pays des merveilles.
Ils seront contents de la
C'est pas Gérard Majax ce soir, Madame Le Pen.
Nous sommes en guerre.
J'avais un grand-oncle maternel à Montargis, si vous voulez tout savoir.
Nupes, cette pétaudière, en réalité.
Et vous ne pétez pas non plus la nuit dans votre lit.
How dare you? You have stolen my dreams.
J'entends votre émotion, Dolores.
Nous sommes en guerre.
Trust me, you don't want to be in Saint-Denis. It's not the same as Paris. Yeah. Trust me.
Écoutez, je crois que clairement, vous n'êtes pas très chaud pour les vaccins.
Parce que je ne supporte pas les piqûres, d'accord?
Bonjour, Madame le ministre. Quel est le climat en arrivant à Kiev?
Magnifique. Et c'est beau.
On ne peut pas avoir confiance en des gens qui ont des casseroles, c'est même plus des casseroles, c'est une cuisine complète au cul.
Non, pas Berkov.
C'est quoi votre problème, quoi ?
Il m'a demandé si nous étions prêts à travailler dans un gouvernement d'union nationale et je lui ai dit que nous voterons ce qui est bon pour les Français, pour le pays, pour les salaires, pour les retraites.
Il vous a proposé de rentrer dans un gouvernement d'union nationale.
Non, oui. On ne m'a pas proposé à moi de rentrer dans un gouvernement d'union nationale. Mais est-ce qu'un gouvernement d'union nationale est la solution ?
Mais voilà. Voyons, on ne parlait que de blocage, les institutions sont bloquées, on ne sait plus où on est, comment va-t-il gouverner ? Eh bien, l'Union nationale, voilà la solution. Écoutez, à Sud Radio, on sait ce que c'est que l'Union nationale. Nous avons une radio d'Union nationale. Il y a les extrêmes gauches, les extrêmes droites, les modérés, les modems, les extrêmes centres même, nous avons tout. Et ça marche très très bien. Nous sommes chacun d'entre nous à sa personnalité. Et pourquoi pas ? Évidemment, Macron n'est pas de Gaulle, mais on n'est pas à la Libération non plus. Donc, on va négocier. Qu'est-ce que c'est que la politique ? C'est l'art subtil de la négociation. Tu viens chez moi ? Il y a un petit Marocain. T'es communiste ? Pas de problème. Tu es centriste ? Aucun problème. Tu as flirté avec le Rassemblement National. Écoute, on te pardonne, tu sais, parce que tu ne savais pas ce que tu fais. Voilà, ça s'appelle l'Union nationale. Et nous, on va parler de la France, justement, des profondeurs. Nous allons parler de Nangis, oui, une petite ville de Seine-et-Marne. Eh bien, vous allez voir ce qui se passe à Nangis. Et c'est très intéressant parce qu'il y a un reporter qui est allé. On va en parler, on en a déjà parlé un peu partout. Et puis, nous allons parler de beaucoup d'autres choses. Le juin, mois des libertés, mois des genrés, mois du transgenre, mois du LGBTQ et plus si affinité. Nous allons parler de tout ça. Et puis, nous allons parler aussi justement d'une population, là on n'en parle pas beaucoup parce qu'il ne faut pas beaucoup parler d'eux, il ne faut pas de buzz. Ce sont les travailleurs sociaux. Et que serait la France, que serait ce pays sans les travailleurs sociaux qui sont l'huile de la machine du pays ? On va en parler avec Raymond Taube.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Nangis, petite ville de Seine-et-Marne, une ville de 10 000 habitants. Nangis, la France profonde, il ne se passe rien à Nangis. Ah bon ? Il se passe vraiment rien à Nangis. On en parle tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour.
Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril.
Ça, ce sera pour plus tard, ce sera pour la marche des fiertés en juin. Mais quand on arrive en ville, effectivement, Daniel Balavoine, tes lames de rasoir ? Non, quand on arrive en ville, ici à Nangis, ça ne se passe pas comme ça, mais il se passe quand même des choses. Yannis Eziadi, vous êtes comédien, vous êtes auteur, vous êtes reporter, et vous êtes allé pour le magazine Causeur, que je présente. D'ailleurs, sa directrice, Elisabeth Lévy, est une de nos chroniqueuses les plus assidues et les plus talentueuses dans le Grand Matin Sud Radio. Alors, vous êtes allé à Nangis, voir qu'est-ce qui se passe dans une ville, et qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez observé ?
Alors, je fais juste une petite parenthèse pour dire pourquoi j'ai fait ce reportage. Ce qui a déclenché ça, c'est que la presse, d'ailleurs, l'avait repris par-ci, par-là. Il y a quand même eu deux ou trois nuits d'émeutes à Nangis, suite à...
Nangis ou Nangis, on dit ?
moi je dis Nangy, les habitants disent plutôt Nangy, mais beaucoup de gens disent Nangy aussi.
D'accord.
Et donc,
il y a eu quelques émeutes.
Les gendarmes ont essayé d'arrêter un jeune homme de 14 ans, je crois, selon ce qu'on sait, qui faisait du rodéo, enfin de la moto sans casque. Ils l'ont poursuivi jusque dans les champs. Il est tombé, il s'est blessé, ils lui ont porté les premiers secours, les pompiers sont arrivés. Ses jours n'ont pas été en danger. Suite à ça, ça a été plusieurs nuits de violence, attaque de la gendarmerie au mortier, attaque de la mairie, attaque d'un effectif de gendarmerie qui venait dans le petit quartier problématique. Enfin, c'est un tout petit quartier, parce que rappelons que c'est 8900 habitants, la ville. Donc voilà. Et donc, il y a vraiment eu et des feux de poubelle et j'en passe. Voilà. Donc, suite à ça.
C'est la première fois pratiquement que ça se passait.
Je crois que c'est la première fois, selon les habitants, détention, il y en avait déjà eu.
Bon. Alors, suite à ça,
moi, je connais cette ville, parce que je m'y étais rendu à plusieurs reprises, parce que j'ai des amis qui habitent près de Nangy. J'avais trouvé que l'islam visuel était quand même très représenté. Je me suis dit, je vais aller y passer 6 jours pour vraiment voir ce qui s'y passe. Et donc là, évidemment, j'ai pu voir une proportion de femmes voilées très grande pour un village
de... Vraiment
importante. C'est-à-dire que à partir de 10h30 sur le marché, c'était impossible de poser ses yeux quelque part sans avoir dans le champ de vue une femme voilée, ce qui peut surprendre pour un village, je le rappelle, au milieu des champs. Vraiment, c'est tout petit, Nangy. Hein.
Oui,
c'est
un village, une ville de moins de 10 000 habitants.
Voilà, c'est en plein cœur de l'abri.
En plein cœur de l'abri,
Voilà. Donc, j'ai pu y voir ça. Et puis surtout, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'arrêter dans la rue, au fil de mes promenades, des gens que je croisais et de leur poser la question sur l'insécurité et est-ce qu'il y a un sentiment de dépossession. Voilà. Et donc j'ai pris le parti d'arrêter, je le dis dans le petit reportage que j'ai fait, des gens, ce qu'on appelle des Français de souche, c'est-à-dire pour avoir leur sentiment à eux. Est-ce que oui ou non, ça leur pose un problème.
Les Français de deux ou plusieurs générations.
Voilà, exactement. D'accord. Et là, sur la quarantaine de personnes que j'ai arrêtées, pas une seule ne m'a dit que elle vivait bien dans cette ville. Tout le monde m'a
pas
dit.
Pas une seule.
Pas une seule.
Et qu'est-ce qu'ils disent alors? Qu'est-ce qui revient?
Ce qui revient, c'est je n'ai plus l'impression de vivre en France. J'ai l'impression que ma ville devient une ville musulmane. Je ne reconnais pas le charmant bourg dans lequel je me suis installé il y a 30 ans. Et voilà, et une grande inquiétude, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que leur mode de vie, qui est le mode de vie traditionnel en France, n'a plus vraiment sa place dans la ville de Nangy.
Voilà. Mais alors, quand ils disent, alors c'est intéressant, creusons un peu, Yannis et Ziadi, quand ils disent je ne me reconnais plus, est-ce que c'est parce qu'ils voient les femmes voilées ou pour d'autres choses? Qu'est-ce qui fait qu'ils disent ah oui, moi, mon mode de vie à la française, disons, mon art de vivre, n'est plus le même? Quand ils disent ça, c'est.
Je vais vous
qu'est-ce
répondre.
Qu'est-ce qui les frappe le plus, oui?
La proportion énorme de femmes voilées, numéro 1. Des hommes en djellaba, numéro 2. La halalisation des commerces. C'est-à-dire que beaucoup de restaurants deviennent halal. Même des restaurants qui d'apparence ne sont pas halal, on les a appelés. C'est-à-dire, par exemple, un restaurant de tacos et une pizzeria.
Ouais.
Oui, tout est halal. On ne fait que de la viande halal.
Vous les avez appelés?
On les a appelés. La mosquée, l'implantation de la mosquée. Avec évidemment à chaque heure de sortie de prière une proportion d'hommes en djellaba portant des barbes pour certains et beaucoup de jeunes voilà. Et puis le fait par exemple que à Nangy, à partir de moi je m'y suis promené chaque soir à partir d'environ 21h, c'est très 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 difficile de croiser une femme dans le centre-ville.
Ah oui,
le centre-ville à partir de 21h 21h30, c'est quasiment uniquement deux fois j'ai pu croiser des femmes, mais c'est quasiment
que
uniquement
des
hommes d'origine extra-européenne.
Ah oui.
Et tous
ah,
les
vous voulez dire vous ne voyez plus de Français dits de souche?
Quasiment pas. C'est-à-dire que c'est majoritairement
d'accord.
des hommes d'origine extra-européenne et ce que les habitants de Nangy appellent le café d'hommes, c'est-à-dire un café dans lequel on n'a jamais vu une femme. Voilà. C'est un café de la communauté.
On ne peut pas dire qu'elles sont interdites, mais on ne les voit pas.
On ne peut pas dire qu'elles sont interdites. Moi, plusieurs personnes m'ont dit qu'il y a eu une affaire d'une femme qui est entrée, à qui on a refusé l'entrée. Et ça, j'ai aucun moyen de le vérifier. En revanche, ce qui est certain, c'est que personne n'a jamais vu de femme. Bon, voilà, ce ne sont que des hommes
donc,
de la communauté.
Donc, c'est une espèce de malaise, malaise de mal-vivre, d'interrogation. Où suis-je ? Qui suis-je ? C'est un peu ça, quoi. C'est presque existentiel, ce que vous...
Mais bien évidemment. C'est-à-dire qu'ils ne voient tous ces... Enfin, ce que je veux dire, c'est que les Français dits de souche ne voient plus, pour eux, une ville française.
Alors, ça a été votre parti pris, Yannis et Ziadi, parce qu'on aurait pu vous dire, mais pourquoi vous n'interrogez pas justement quelques, soit femmes voilées, soit personnes en camis, en djellaba. Vous avez choisi, vous dites, je veux voir ce que pensent les Français de plusieurs générations, donc c'est votre parti pris, quoi.
Vous voulez que je vous réponde pourquoi ?
Oui.
Eh bien, je vais vous le dire, parce qu'à mon avis, les gens qui souffrent dans cette ville sont des Français de souche. Et je vais vous donner un exemple. J'ai trouvé... C'est un exemple, hein, mais parmi tant d'autres.
Oui.
J'ai trouvé sur un groupe Facebook qui s'appelle Anonyme entre sœurs Fila officielle, qui est un groupe visiblement de femmes musulmanes, ce message. Assalam alaikum. Je recherche des avis sur les régions suivantes. Environ de Grenoble, Normandie, 77, Nangis-Provins, Bray-sur-Seine. Je cherche un endroit calme, village, petite ville, mais pas trop isolé non plus, où la communauté musulmane n'est pas inexistante, où l'apparence musulmane ne pose pas de gros soucis. Si vous avez des conseils, endroit à déconseiller, n'hésitez pas. C'est-à-dire que je pense que Nangis devient un charmant village, un charmant petit bourg, pour... des gens musulmans qui veulent vivre dans une communauté musulmane avec leurs traditions, avec leurs tenues, et qui soient au milieu des champs et pas forcément dans une banlieue bétonisée.
D'accord. Alors effectivement, c'est un choix, mais écoutez, on peut leur dire, et je me fais non pas l'avocat de tel ou de tel ou de Fila, mais il dit oui, mais attendez, nous sommes français, nous sommes des entités françaises, est-ce qu'on n'a pas le droit de vivre selon nos coutumes ? Après tout, ils ont qu'à s'y habituer, il y a pas de, on ne les agresse pas. Que répondez-vous à ça et surtout que répondent-ils à ça, les personnes que vous avez interrogées ?
Alors non, moi les personnes que j'ai interrogées donc vivent très mal ce remplacement de population, si vous voulez, à l'échelle de cette ville. En revanche, je pense vraiment que la population musulmane de Nangis ne pensait pas que les Français dits de souche prenaient aussi mal leur mode de vie. Je le pense vraiment pour une raison simple, c'est que les hommes politiques ne prennent pas ce problème à bras-le-corps, donc ne discutent pas avec cette population, et que les Français...
Ils discutent quand il s'agit de voter.
Uniquement.
C'est ça, quand il s'agit d'élire le maire.
Et
ou
pas
autre.
Pour leur dire, je pense qu'un certain nombre de vos pratiques peut-être peuvent heurter une partie de la population. Et puis, une autre raison, c'est que les Français dits de souche de Nangis, ça ne leur viendra jamais à l'esprit de dire à une femme voilée, peut-être qui croise tous les jours à la sortie de l'école et à qui ils disent bonjour, vous savez, moi, je trouve que c'est gênant. Jamais, parce qu'ils ont peur.
Ah, c'est ça. Ah oui, il y a un sentiment de peur.
Ah ils ont peur. Ça. Alors, ils ont peut-être tort d'avoir peur. Ça, peut-être qu'ils ont tort d'avoir peur. Mais, si vous voulez, à mon avis, il n'y a pas de discussion. Et c'est absolument malsain. Il n'y a pas de discussion. Par exemple, moi, je suis moi-même binational. En Tunisie, moi, je me souviens...
Oui, vous êtes franco-tunisien.
Je suis franco-tunisien. Moi, je me souviens, en Tunisie, quand j'avais 12-13 ans, ou quelque chose comme ça, il y avait les premières femmes en burkini qui venaient dans les piscines. Mais je peux vous dire un truc, c'est que les Tunisiens musulmans, une partie des Tunisiens musulmans, hurlaient contre les femmes en burkini en lui disant « Tu sors de la piscine, c'est interdit, ça n'a rien à faire ». Évidemment, jamais un Français n'osera dire ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant, j'ai interviewé quand même une personne de ce quartier problématique de la Maroquerie qui habite là, qui est une personne musulmane d'origine maghrébine, qui est arrivée quand il avait 7, 8 ans, 9 ans, avec le regroupement familial. Il est arrivé dans les années 70, je crois, quelque chose comme ça.
75, oui, c'est le...
Il m'explique que quand il est arrivé à Nangis, sa famille était une des premières familles maghrébines à s'installer à Nangis. Il me dit, je n'ai jamais vécu le racisme. Les gens de Nangy nous ont accueillis les bras ouverts. Donc si vous voulez, à mon avis, il n'y a pas de racisme. On ne peut pas dire que la population musulmane soit victime de racisme. Pas du tout. En revanche, les Français ont un petit peu peur, voilà, oui. Parce que, évidemment, au sein de cette communauté musulmane, il y a un certain nombre, c'est pas, les musulmans ne sont pas des voyous, bien évidemment que non. Mais si vous voulez, voilà, ils ont peur.
Il ne manquerait plus que ça. Il ne faut jamais généraliser.
Bien évidemment, mais ils ont peur, si vous voulez, de s'attaquer à de, voilà.
Mais ce qui est très intéressant aussi dans ce que vous dites, Yannis Eziadi, c'est qu'il y a ce silence, ce mur du silence. On ne se parle pas entre communautés. Quoi,
ah non, non, non.
On
non.
ne se parle pas.
Non, non, on ne se parle absolument pas.
On se côtoie, c'est presque la partisation, l'archipélisation, je ne dirais pas la libanisation, dont parlait effectivement notamment Jérôme Fourquet. On se retrouve juste après cette petite pause, on parlera des réactions que votre article a engendrées.
Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et nous sommes toujours avec Yannis Eziadi qui a publié dans Causeur, dans le magazine Causeur, Mon village, alors halal. Évidemment, une allusion à Boualem Sansal, bien sûr. Nangy donc. Voilà, petite ville, tranquille, 10 000 habitants, principe très tranquille, et où la communautarisation, une certaine communautarisation, bat son plein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après, Yannis Eziadi, rapidement, quand vous avez publié, je crois que ça a suscité beaucoup de réactions, on le sait, votre reportage. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Voilà, donc le reportage a été publié, donc j'ai fait un reportage de 8 pages qui a été publié dans le Causeur de ce mois-ci. Et donc Jean-Marc Morandini m'a très gentiment invité à faire une émission spéciale autour de ce reportage. Et donc là, évidemment, je me suis retrouvé en face de moi, notamment, alors il y avait Pierre-Yves Bournazel.
Conseiller de Paris, je crois.
Conseiller de Paris, et alors il était candidat aux législatives ensemble, c'est ça. Et à Gérald Briand, c'est ça, du Parti communiste, il me semble. Et donc, Gérald Briand, évidemment, m'explique que c'est un plaidoyer pour la théorie du grand remplacement, déjà, premièrement, évidemment, ça c'était l'attaque évidente. Et puis que mon travail ne valait rien, puisque j'étais pas journaliste, déjà, et que c'était du ressenti, c'était basé sur le ressenti. Voilà. Il n'y avait pas de chiffres, la science n'était pas là, c'était le ressenti des gens. Voilà. Donc ça, d'accord, c'était l'attaque principale. Et donc, suite à ça, j'ai publié une tribune dans le Figaro qui s'appelle le
malaise civilisationnel de la France profonde ne compte pas.
Voilà. Alors moi, je l'avais intitulé Nos yeux contre le déni. Bon, c'est pas le titre qui a été gardé, mais voilà, j'ai écrit une tribune pour parler de ça, c'est-à-dire que tous ces gens veulent des chiffres, des études qui viennent prouver le contraire de ce que les gens ressentent. C'est-à-dire que les gens, enfin une partie non négligeable, même massive, des Français disent « je vois ça, je ressens ça, c'est terrible pour moi, c'est une violence », et on leur rétorque « Oh non, 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 il faut des études, des chiffres. » Et moi, je pense que les chiffres sont très importants, mais que le ressenti est au moins aussi important que les chiffres. Il faut les deux. Parce que, qu'est-ce que vous voulez dire ? Donc, ces gens qui souffrent, leur dit « Il n'y a pas de chiffres, donc vous ne souffrez pas. »
Il faut rappeler que quand le réel frappe à la porte, il ne frappe pas que sous forme de tableau Excel. C'est ça qu'il faut rappeler. Et qu'effectivement, la vie des gens, c'est très, très, très important. D'ailleurs, il y a eu des livres qui l'ont dit. Hein. Vous n'êtes pas, enfin, ça n'enlève rien à mon mérite, mais vous n'êtes pas le
bien
premier.
Sûr, bien sûr.
Ça a été beaucoup dit, mais on a l'impression que c'est toujours le déni. C'est ça. Et vous avez aussi, je crois, beaucoup d'attaques ou pas trop.
Ah ben bah évidemment, j'ai reçu évidemment. Alors ce qui est intéressant aussi, je tiens à le dire, je suis très décomplexé. Étant binational, je suis très décomplexé là-dessus. J'ai reçu massivement des messages suite à tout ça. Plein de messages de gens de partout en France, mais sur les gens de Nangy, j'ai reçu énormément de messages de gens de Nangy. Une partie qui me disait « Bravo, c'est exactement ce que je vis ». Ces gens-là étaient tous français de souche entre guillemets, et une autre partie de message qui me disait soit je vais te casser la gueule, des insultes, tout ça, soit vous êtes raciste, vous êtes un menteur, et ces messages venant de la communauté extra-européenne et souvent musulmane. Et donc c'est-à-dire que je pense vraiment que la communauté musulmane ne une partie pense vraiment que je mens, puisque eux ne voient pas ça, puisqu'on ne le leur dit pas. Vous voyez ?
Oui, enfin, ne ressentent pas. Ben, de toute façon, c'est deux ressentis très différents.
Bien sûr, mais ils n'imaginaient pas, à mon avis, le ressenti des Français de souche.
Vous pensez que vous leur, avez tendu un miroir dans lequel, effectivement, ils disent qu'est-ce que c'est que ces gens-là ?
Et d'ailleurs, j'ai reçu plusieurs messages de personnes de Nangy qui me disent, de personnes qui ne se connaissent pas, hein, et j'ai envoyé une personne qui me l'a confirmé. Alors bon, moi, évidemment, c'est exclu pour moi de pouvoir mettre un pied dans cette ville aujourd'hui. On est d'accord. Trop de menaces de mort.
Pour le moment, il vaut mieux éviter.
Voilà. Mais plusieurs personnes de Nangy m'ont envoyé des messages pour me dire que depuis la sortie du reportage et depuis l'émission chez Jean-Marc Morandini, tous avaient constaté une recrudescence du port du voile.
Ah oui, une recrudescence. Ouais. Voilà.
Et la mairie, évidemment, a bien évidemment contesté. Sur Radio Évasion, la mairie de Nangy, LR, dit la ville de Radio Évasion dit la ville de Nangy dénonce un article écrit non pas par un journaliste mais par un comédien professionnel à 4 jours du premier tour des législatives. Nous déplorons l'image caricaturée de notre commune et de notre quotidien. Nangy est aussi une pépite tournée vers l'avenir. Mais c'est une blague. Il faut savoir que les Français que j'ai interrogés qui habitent Nangy me disent tous qu'ils veulent quitter cette ville et que leurs appartements, leurs maisons ne valent plus rien. Personne n'a envie de venir vivre à Nangy. Et quand on me dit que c'est écrit non, pas par un journaliste, ce qui est vrai, je ne suis pas journaliste, je suis allé voir, j'ai passé 6 jours, j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai écrit, j'en ai fait un récit. Mon domaine à moi, c'est pas les chiffres, c'est retranscrire à l'écrit les sensations des gens. Je réponds à ça, oui, je ne suis pas comédien, mais quand Aïssa Maïga, qui est comédienne, fait un reportage sur le quotidien sans eau des femmes peules, ou que Mélanie Laurent fait un documentaire sur les problèmes environnementaux, personne ne dit à ces gens « Ah, mais vous êtes des acteurs !» Non,
c'est pas des journalistes.
Non, sur les violences faites aux femmes, sur l'écologie, on a le droit de pas être journaliste et de dire « C'est pas bien !» Sur le malaise civilisationnel, là, il faut être scientifique, sinon ça ne compte pas.
Et oui, c'est ce qu'on appelle l'indignation à géométrie variable.
Et j'encourage vraiment, pour terminer quand même, j'encourage vraiment les gens à lire ces 8 pages d'Encauzeur où je décris ce qui se passe et où ce reportage, je l'ai intitulé dans Causeur, ma première burqa, parce que c'est la première fois de ma vie à Nangy que je voyais une femme intégralement voilée. Et si on m'avait dit qu'il fallait aller dans le cœur de l'abri pour voir ma première femme en voile intégrale, je n'y aurais pas cru.
En Tunisie, vous ne l'avez pas vu, ça ?
Ah bah, en Tunisie, alors ça fait un petit bout de temps que j'y suis pas allé, ça fait peut-être 7-8 ans que j'y suis pas allé, je n'avais jamais vu de femme intégralement voilée.
Merci Yannis Eziadi. Écoutez, lisez le reportage de Yannis Eziadi dans Causeur. Et puis voilà, c'est un fait. Et puis évidemment, ceux qui sont d'accord ou pas d'accord, eh bien, nous appellent. Mais c'est un témoignage. Et je rappelle, en tout cas, je rappelle que l'enquête, quelle que ce soit par un journaliste ou pas ou non, l'enquête, aller sur le terrain, c'est la chose la plus importante. Et ensuite, on interprète et on parle et on tire le bon grain de livret.
Merci beaucoup Yannis Eziadi. Restez avec nous sur Sud Radio. Tout de suite, ça va être le face-à-face à partir de 12h45 avec Raymond Taube. On va parler des travailleurs sociaux et se poser la question, est-ce que oui ou non, ils sont méprisés en France? Mais tout de suite, ça balance, perles, huées et bravo.
Sud Radio, André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Farmer, évidemment, le succès absolu de Mylène Farmer, sans hésitation, je suis un garçon et c'est son droit le plus strict. Alors c'est intéressant, on est en juin, hein, on est déjà le 22 juin, suite de la fête de la musique, vous savez que nous avons tous célébré. Eh bien aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que c'est le mois du genre et c'est le mois de la trans. Et vous savez ce que disait un poète comme Jacques Prévert ? Il disait qu'il y a des gens qui dansent sans entrer en transe. Il y a des gens qui entrent en transe sans danser. Ce phénomène s'appelle la transcendance. Et en attendant, il y a le transgenre. Alors vous allez dire, mais c'est quoi, de quoi on parle et tout. Eh bien écoutez, voilà, c'est très simple. À Lyon, par exemple, un cortège en non-mixité. Alors c'est quoi un cortège en non-mixité? Allez-vous demander, auditeurs et résistants de Sud Radio, de quoi on parle non-mixité? Eh bien c'est très simple. Ils sont tous des groupes opprimés. Tous. Ils sont opprimés, racisés, colonisés, tout ce que vous voulez, genrés. Mais ils ne défilent pas ensemble, mais les uns après les autres. Ah oui, on ne se mélange pas. Entre opprimés, on ne se mélange pas. Hein. Ce n'est pas la concurrence victimaire, c'est la foire aux phobes, la cage aux phobes, comme disait l'excellent écrivain Philippe Muret. Voilà, il y a les queers racisés, ensuite il y a les handicapés racisés, les lesbiennes, les trans, les intersexes, etc., etc. Et chacun, c'est ça qui est extraordinaire, au lieu de se mettre ensemble, non, chacun est dans sa communauté. C'est de la spécialisation. Alors voilà, c'est le mois des fiertés, juin. Et alors ce qui est intéressant, c'est évidemment l'alliance formidable entre le capitalisme et le woke et la cancel culture. La cancel culture est rentable. Il y a eu un livre là-dessus, nous avons reçu l'autrice. Vous voyez, je ne dis pas l'auteur, mais l'autrice. Moi aussi, je suis un peu woke. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout est ensemble. Par exemple, Canal+, la chaîne Canal+, annonce un programme 100% queer. Voilà, effectivement, c'est le marketing de la segmentation. Apple dévoile de nouveaux bracelets Pride Edition. Voilà, elle a prêté Gay Pride, etc. La fierté, très bien. Burger King, vous allez me dire, qu'est-ce que Burger King? Est-ce qu'ils font quoi? Des pains genrés? Des steaks genrés? Non, mais des burgers avec deux pains identiques pour le mois des fiertés en Autriche. Oui, deux pains identiques, voilà. On va pas, voilà. On est genré. Lego met à l'honneur la communauté queer à travers une nouvelle campagne inclusive. Et oui, je ne parlerai pas de l'écriture inclusive, on en a suffisamment parlé. La parade LGBTQIA+, où, mais évidemment, à Disneyland Paris, qui vont dorénavant s'appeler Genreland Paris, ou Transgenreland Paris, ou Trans Paris, enfin ce que vous voulez, voilà. Avant les Jeux Olympiques, bien sûr. Et puis, il y a la lecture de contes par les drag queens. Et puis, il y a eu quand même ici, à Paris, comme ailleurs, comme à Los Angeles, quand même, des enfants qui assistaient à des marches de fierté où on voyait des travestis pratiquement nus, tenant en laisse quatre hommes en tenue de chien à quatre pattes, etc. Ou qui se fouettaient en tenue sadomaso. Voilà, frappez, on vous ouvrira. Voilà, un spectacle culturel intéressant et digne de montrer à quel point la civilisation avance. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de ne pas être tolérant, il s'agit de savoir pourquoi, effectivement, le marché et les lois du marché s'accommodent, non seulement s'accommodent, mais épousent avec toutes les divisions, les sectarisations, de mouvements qui ne se caractérisent plus que par, non seulement par leur statut d'opprimé, mais par la revendication de leur spécificité. Il n'y a plus de peuple pour eux, il n'y a plus de nation, il n'y a plus que, effectivement, quelques spécificités sexuelles, puisque la nature et la biologie n'existent pas, n'existe que notre volonté d'être fille, garçon, sans hésitation. Je suis un garçon.
Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour.
Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout son cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir.
Eh oui, ça, la recommandation du révérend père Eddie Mitchell, vous la connaissez tous, hein, pas de boogie-woogie avant de faire vos prières ce soir. Eh bien, ce n'est pas le cas au Qatar. Au Qatar, pas de boogie-woogie du tout si vous n'êtes pas marié. Et pas de boogie-woogie si vous êtes en personne du même sexe. Attention, attention. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, oui, mais c'est pas nouveau, hein, c'est les règles au Qatar, un état religieux, et voilà, bon, ce sont les règles au Qatar, pas question d'adultère, pas question de relations sexuelles, etc. Mais, comme vous le savez, comme le monde entier le sait, la Coupe du Monde en 2022, hein, il va y avoir les climatiseurs partout dans les stades, c'est dans 6 mois, Et là, la FIFA, l'UEFA, tout le monde s'est demandé, mais attendez, attendez, oui, mais alors, vous allez recevoir le monde entier. Comment ça va se passer pour les relations, vous savez, en Europe, en Occident et en Asie, même ailleurs, ben ouais, les couples viennent et ils ne sont pas tous la bague au doigt. Hein, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est très, très simple. On a posé la question au Qatar et le journal anglais, le Daily Star, le quotidien, eh bien, ils ont la réponse. Ils ont dit, ah non, 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 pas question qu'on change, nous, nos règles. Ah, c'est intéressant, hein, parce que quand c'est le Qatar, il peut garder ses règles, mais quand c'est en France, attendez, c'est laïcard, c'est laïcité, minable. Non, non, le Qatar dit interdiction de l'homosexualité, c'est nos règles, nos lois. Interdiction de montrer de l'affection en public, c'est-à-dire pas question de se caresser en public, pas question de s'étreindre, attention, c'est pas pour nous ça. Et alors comment on va faire avec ces milliers de sportifs et de fans qui vont arriver? Eh ben, vous ferez comme les autres, vous allez vous plier à nos règles. When in Rome, do as the Romans do. Voilà, vous suivez nos règles. Ah, c'est marrant, parce qu'en France, si vous osez dire ça, vous êtes évidemment un affreux réactionnaire, conservateur, immonde. Mais au Qatar, ça va passer. Est-ce que la FIFA a protesté? Pas question. Est-ce que l'UEFA a protesté? Encore moins question. Eh oui, vous imaginez ce que ça va engendrer comme gros sous, comme chiffre d'affaires, la Coupe du Monde au Qatar en plus. Voilà. Donc voilà, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, faites attention et puis pliez-vous aux règles. Oui, oui. Et chez nous, attention, c'est du racisme, du sexisme, du colonialisme, de la transphobie, etc., etc., et de l'homophobie. Mais au Qatar, non, non, ben c'est les règles du pays, qu'est-ce que vous voulez? FIFA s'incline, UEFA s'incline, tout le monde s'incline. Ça s'appelle la position du franc-tireur couché.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Eh bien, je vais vous dire, vous savez quoi? Faut que je vous dise, moi je ne dors plus depuis le premier tour des élections législatives, quand j'ai appris que Jean-Michel Blanquer avait échoué au premier tour. Ça m'a, je peux vous dire, auditeur de Sud Radio, ça m'a bouleversé. Qu'un Blanquer soit mis sous la moquette, c'est pas possible, c'est pas possible. Et heureusement, l'université de Panthéon, Paris-Assas a réagi, Panthéon-Assas. Parce qu'on ne peut pas laisser un homme comme Blanquer, comme ça, dans l'ouate et dans le brouillard. On en parle tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Je suis sûr que si Coluche, les Restos du Cœur étaient là, elle aurait pu dire non, aujourd'hui, même Blanquer n'a plus le droit d'avoir faim ou d'avoir froid. On ne savait pas ce qu'il allait devenir Blanquer. Et heureusement, l'enseignement supérieur magnifique est là. Voilà. L'université Paris 2, Panthéon-Assas, a exceptionnellement décidé d'ouvrir un poste sur mesure au sein de son département de droit public pour accueillir l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer, qui vient d'être défait aux élections. Mediapart a effectivement fait état de ces informations. Alors on se dit, bon, mais un poste créé ad hoc, alors qu'en général, il y a sélection, etc. Attention, non que Jean-Michel Blanquer ne mérite pas le poste. Il est agrégé en droit public, il est spécialiste de droit constitutionnel, et droit public comparé, il a toutes les compétences. Mais quand même, le président de Panthéon-Assas, Stéphane Braconnier, n'a pas caché le caractère inhabituel, voire exceptionnel de la demande. Et il a dit, le président de Panthéon-Assas, il m'a été demandé, on voudrait savoir par qui, hein, in petto, par qui lui a demandé, d'envisager la possibilité d'accueillir au sein de notre université l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer. Voilà, eh bien, écoutez, on ne peut pas refuser. Vous savez, vous rappelez, Marlon Brando dans Le Parrain, je lui ai fait une proposition qu'il ne peut pas refuser. I made a proposition that he can't refuse. Eh bien, voilà. Donc, le président Braconnier a dit oui. Alors, il y a eu un petit communiqué de Panthéon-Assas en disant non, non, aucune demande extérieure. Elle a été, mais attendez, c'est le président, votre président Braconnier qui le dit qu'il y a une demande extérieure, voilà. Donc, on sait très bien, pas de création de poste ad hoc, etc. Il n'empêche, moi je vais vous dire, je suis très, très, très content que les serviteurs de la République, au moins, on ne laisse personne sur le trottoir. Voilà, ça s'appelle la gratitude. Vous allez me dire, non, ça s'appelle la monarchie bananière. Non, ça s'appelle de la gratitude. Vous voyez, passe-moi le séné, je te donnerai la rhubarbe. Voilà, vous ne serez jamais oublié, vous serez toujours gâté. C'est bien, c'est le Panthéon.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Sur la plage islamisée, turquinise et femmes voilées. Sont partout, c'est agaçant, y en a assez. C'est plus que c'était Saint-Tropez. Je ne reconnais plus la France.
Alors les goguettes, évidemment, la parodie, la célèbre chanson de Brigitte Bardot, bien sûr, sur la main drague. Eh ben voilà, alors les goguettes se plaignent qu'il y a trop de burkini, ils sont pas les seuls, c'est vrai, le burkini, vous avez vu d'ailleurs, la polémique formidable qui s'est passée à Grenoble quand le maire Éric Piolle a autorisé le burkini dans les piscines municipales, le préfet s'est insurgé, tribunal administratif aussi. Eh bien, le Conseil d'État, qui est quand même l'autorité en la matière, vient de dire non au burkini. Alors voilà, il a confirmé de suspendre effectivement l'autorisation des burkini dans les piscines municipales, en disant, écoutez, ce n'est pas possible. Et voilà ce qu'il disait. Alors c'est intéressant, le Conseil d'État. Ce nouveau règlement des piscines, et parler de Grenoble bien sûr, il ne visait qu'à autoriser le port du burkini afin de satisfaire une revendication de nature religieuse. Alors ce qui est formidable, c'est la réponse de la municipalité grenobloise. À côté de Tartuffe, c'est la franchise pernifiée. Voilà. Ils ont répliqué, on prend acte de cette décision, tout en regrettant, entre guillemets, dit la municipalité grenobloise, que le Conseil d'État lui prête des intentions qu'elle n'a pas. Alors, bien sûr, c'était uniquement, ce n'est pas possible. Non, le burkini en piscine, tout va bien, mais pourquoi pas, je ne sais pas, moi, la burqa, pourquoi pas, et puis n'importe quelle voile. Et ça ne les gêne pas du point de vue de la pollution, du point de vue de l'hygiène, n'importe, vous savez, c'est comme un homme, vous rentrez en pantalon long en piscine, ça ne va pas du tout, hein, donc problème. Voilà, donc j'ai une grosse information à vous donner, le Conseil d'État existe et quelquefois peut être utile aux littérateurs de radio, vous voyez, si vous faites de la saisine de temps en temps, eh bien profitez-en, ça peut marcher.
Sud Radio Berkov dans tous ses états, le face-à-face.
Le face-à-face avec Raymond Taube. Bonjour Raymond Taube, vous êtes fondateur, vous avez fondé en 1997 l'Institut de droit pratique, l'IDP. Vous êtes formateur des travailleurs sociaux depuis 25 ans et auteur de ce livre « Travailleurs sociaux, à quand une vraie reconnaissance ?» aux éditions du Cherche Midi.
Alors Raymond Taube, bonjour. Écoutez, c'est d'ailleurs la couverture est belle, hein, la couverture, voilà, c'est des mains, des bras, des mains, et voilà, ça s'appelle la solidarité, ça s'appelle l'aide, ça s'appelle l'entraide. Mais juste avant les informations, Raymond Taube, je voudrais savoir comment on pourrait définir les travailleurs sociaux, parce que tout le monde entend parler de travailleurs sociaux, je suis travailleur social, ou on entend parler de travailleurs sociaux. Comment pourrait-on, quelle serait, si vous ne la donnez pas, je ne vois pas qui peut la donner, une définition claire et précise.
Je ne sais pas si je peux la donner, parce qu'il y a dans cette catégorie des métiers qui sont qualifiés, qui sont des formations diplômantes, comme assistant de service social, il faudrait dire assistante sociale, puisque la grande majorité sont des femmes. Il y a les éducateurs spécialisés, c'est d'ailleurs le seul métier dans le social où les hommes sont majoritaires.
Donc les éducateurs spécialisés, surtout des hommes.
Surtout des hommes, c'est ça, qui s'occupent notamment donc des mineurs, des enfants, des problèmes d'assistance éducative. Il y a les conseillers ou conseillères en économie sociale et familiale. Vous avez des assistantes maternelles, donc vous avez
les aides à la personne, ça fait
les
partie.
Les aides à la personne, oui. Mais vous avez également, donc là, si on prend les métiers donc qui basés sur des diplômes, ça représente environ 1,3 million de personnes d'après cette nomenclature officielle. Mais certains disent qu'il y en a 2, qu'il y en a 3, qu'il y en a 4. On entend même dire qu'il y a 4 millions de travailleurs sociaux, puisque finalement, quand vous êtes bénévole d'une association, Ouais. Bah, vous faites du social. Ensuite se pose même la question, est-ce que lorsqu'on est cadre d'un service social, donc on n'est plus en contact directement avec l'usager, est-ce qu'on est encore travailleur social, etc., ouais. etc. Donc c'est vraiment...
Mais disons que ce sont les gens qui exercent un certain nombre de services aux personnes, je parle aux...
Oui, exactement. Général, et, exactement, et on les avait applaudis, on parlait de reconnaissance, le livre parle de reconnaissance, on avait beaucoup applaudi les soignants à l'époque du Covid.
Bien sûr.
C'est vrai que les travailleurs sociaux, j'en connais quelques-uns, quelques assistantes sociales dans les hôpitaux notamment, portaient également une partie de cette charge et de cette difficulté. Par exemple, la justice avait quasiment baissé le rideau pendant le confinement, ne fonctionnait plus. Or, quand vous avez des gens dans les hôpitaux dont il faut maintenir les droits ou permettre d'accéder à des droits, lorsque ces personnes sont dépendantes, lorsqu'il faut les mettre sous tutelle ou sous curatelle, et que le tribunal est tout simplement fermé, eh ben, ce sont ces assistantes sociales qui se battent pour essayer de maintenir les droits des personnes.
Et c'est tellement important, c'est très important, chacun d'entre nous a eu, à un moment donné, affaire à une assistante sociale ou autre. On va en parler pendant une heure après les informations avec Raymond Taube.
Et effectivement, si ce sujet vous intéresse, que vous êtes vous-même travailleur social, que vous avez senti une fois un mépris de la France, des services publics ou d'un proche même, eh bien n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et moi j'aime le livre de Raymond Taube sur les travailleurs sociaux. On n'en parle pas beaucoup et c'est une erreur. Un livre paru au Cherche Midi, à quand une vraie reconnaissance? Et justement, hors antenne, pendant les informations, Raymond Taube, on parlait de ce dont on a parlé un peu plus tôt nous-mêmes ici, c'est effectivement la décision du Conseil d'État de suspendre l'autorisation du burkini dans les piscines suite à l'affaire de Grenoble. Et vous me disiez qu'il y a eu justement, dans l'univers des travailleurs sociaux, il y a eu une ou deux grosses affaires, enfin importantes, dans ce sens.
Tout à fait. Alors, il y en a quelques-unes. Enfin, il y en a une notamment qui a été très médiatisée, c'est celle de la crèche Babylou.
Oui.
Mais on ne va pas y revenir, ce n'est qu'accessoire pour nous aujourd'hui. Il y en a une qui est très intéressante, dont on a moins parlé. Dans un hôpital psychiatrique de Nanterre, une assistante sociale contractuelle refusait d'ôter son voile. Et
pendant ses activités à
exactement,
l'hôpital.
Exactement. Et elle a été donc sanctionnée pour cela. Elle a épuisé toutes les voies de recours internes, judiciaires, et s'est retrouvée devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, pourquoi cette affaire est très intéressante?
Elle a porté plainte elle-même, elle est allée jusqu'à la Cour européenne.
Elle a fait ce recours, elle est allée jusqu'au bout du parcours judiciaire.
D'accord.
Et considérant que interdire l'expression religieuse dans les services publics était contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Et pourquoi cet arrêt est très intéressant et pourquoi ce jour, les choses auraient pu basculer, la laïcité à la française aurait pu basculer? Parce que si la Cour européenne, qui est quand même le droit européen, quand même plus d'essence anglo-saxonne que français. Si la Cour européenne avait décidé que imposer dans la fonction, dans le service public, pas seulement la fonction publique, la neutralité religieuse, si elle avait pris cette décision, c'est toute la laïcité à la française qui aurait volé en éclats et soit la France aurait dénoncé la Convention européenne des droits de l'homme, ce qu'on a quelques difficultés à comprendre pour un des pays qui se dit pays des droits de l'homme, ou alors ça aurait été la liberté totale. La Cour européenne a dit que l'État français avait le droit d'exiger la neutralité philosophique, religieuse, notamment religieuse. D'accord. On ne parle pas d'interdire le voile, on parle d'exiger la neutralité dans le service public. Et notre laïcité à la française, ce jour, a été préservée.
Alors justement, parlons un peu plus généralement de ces 1,4 million ou 1,3 million de travailleurs sociaux, diplômés, etc. Au fond, d'abord, c'est un statut, vous allez me dire, il y a des statuts très différents, mais ce sont des statuts reconnus, publics, c'est les travailleurs sociaux, c'est important. C'est dans le public comme dans le privé, comment ça se passe? Vous en parlez dans votre livre, mais justement, je voudrais...
Tout à fait, alors vous avez, comme dit, vous avez, quand on dit travailleurs sociaux, alors c'est un mot qui n'est pas très joli. Je me demandais d'ailleurs si je ne devais pas appeler ce livre « Travailleuse sociale ». Et j'ai interrogé mes stagiaires, parce que je fais de la formation juridique pour des travailleurs sociaux. Ils m'ont dit, c'est vraiment vilain, travailleuse sociale, ça passe pas du tout.
À cause de la féminisation du métier.
Oui, mais pourtant, donc j'ai pris le parti
donc,
dans
alors,
le
justement, livre. C'est quoi le statut alors?
Et le statut, il y a quand on dit travailleur social, c'est pas un statut. C'est un terme générique, c'est une fonction, c'est une mission, c'est pas forcément un métier qualifié, si vous
Bien
voulez.
Sûr. Mais est-ce que ça relève du privé ou du public?
Les deux. De l'associatif, d'accord. Beaucoup. Par contre, dans cette vaste catégorie de travailleurs sociaux, vous avez effectivement des métiers. Vous avez le métier d'assistant de service social, le métier d'éducateur spécialisé, comme nous avons dit tout à l'heure, de conseiller en économie sociale et familiale, d'assistante maternelle. Ça, ce sont des métiers qualifiés avec des diplômes. Mais on peut faire du travail social, de l'accompagnement social, sans forcément avoir une qualification, avoir un diplôme. Et des fois, les choses sont...
Juste, c'est intéressant, ça, Raymond Taube. Oui, alors on peut le faire, bien sûr, tout le monde peut le faire, mais ce n'est pas parce que j'aide mon grand-père que je suis travailleur social. Ce n'est pas parce que dans la famille proche ou éloignée, je vais faire des choses. Voilà. Or, donc, justement, à partir de quand je peux me considérer comme travailleur social?
Dès que ça sort du cadre familial, on va dire que vous faites ça à titre professionnel, mais professionnel, ça peut être bénévole. Parce que les bénévoles des associations sont quelque part...
C'est vrai.
Vous savez, un puriste va me dire, pas du tout, les travailleurs sociaux, c'est le 1,3 million qui correspond à des nomenclatures. Mais sur le terrain, vous avez des juristes, ils ne sont pas avocats, ils sont juristes. Ils ont simplement, ils sont juristes. Vous avez des psychanalystes, ce n'est pas des psychologues. N'importe qui peut se dire psychanalyste. Alors, je ne veux pas dire, attention, les travailleurs sociaux non diplômés, c'est n'importe qui. C'est pas ça que je veux dire. Mais il faut simplement distinguer le terme générique travailleur social de profession réglementée.
Mais alors justement, de ce point de vue-là, oui, vous avez raison. Seulement, comment mesurer la compétence? Je reviens à la compétence. Comment savoir? Moi, je fais des choses, X, Y, Z, avec beaucoup de peut-être de talent, de bonne volonté, et comme vous dites, la solidarité, le bénévolat, c'est très très important. Mais en fait, tout le monde est travailleur social sans le savoir, comme M. Jourdain qui fait de la prose?
Non, déjà, c'est vrai qu'il faut faire preuve d'une certaine empathie. Alors, c'est pas une vocation, faut pas exagérer. On n'entre pas en travail social comme en religion. Mais c'est sûr qu'il faut plutôt avoir, de sentir les choses, être plutôt vouloir aider les gens. Mais sinon, ça devient effectivement de plus en plus technique et donc ça exige de plus en plus de compétences, notamment juridiques, qui est mon domaine. Ça veut dire que lorsque l'on est, par exemple, assistante sociale du travail, pour prendre un tel exemple, vous êtes dans une entreprise, vous avez les salariés qui viennent vous voir avec leurs difficultés.
L'entreprise est tenue d'avoir une assistante sociale ou pas?
L'entreprise, à partir de 500 salariés, un établissement est obligé d'organiser un service social. Donc c'est dans l'entreprise ou ça peut être à l'extérieur.
D'accord.
Donc il y a des services sociaux dits inter-entreprises. C'est un peu comme les VRP multicartes, si vous voulez.
C'est ça.
Bon. Mais il faut qu'il y ait cette possibilité effectivement d'être d'être en relation avec un assistant social, une assistante sociale. Donc les personnes viennent... Alors là, déjà, ça casse un peu l'idée que c'est le porte-monnaie des pauvres. Ou le tiroir-caisse des pauvres.
Oui, parce qu'on l'a beaucoup dit, ça. Ouais.
Parce qu'on dit, on croit ça, que c'est le chèque, quoi, en fait. C'est vrai qu'il y a des gens qui attendent une aide financière. Mais vous avez...
La CAF, ça existe, hein?
Bien sûr, mais vous avez aussi... Je raconte quelques anecdotes dans le livre.
Mais allez-y, racontez.
Vous avez, par exemple, un cadre supérieur qui a des difficultés conjugales et qui demande discrètement à voir l'assistante sociale pour lui dire « Ah, il paraît que ma femme, est déjà qui travaille dans la même entreprise, est déjà venue vous voir, qu'est-ce qui se passe, etc. » Donc, vous avez...
Il y a un côté conseil conjugal, presque.
Tout à fait. Il y a un côté... C'est un métier qui est très intéressant. Enfin, ce sont des métiers intéressants. Quand je parle du service social, du travail tout particulièrement, parce que l'entreprise, le lieu de travail, c'est un peu le reflet de l'extérieur, de la vie. Donc vous avez des gens qui ont des problèmes d'argent, vous avez des gens qui ont des problèmes qui n'arrivent plus à gérer leurs ados, par exemple, et quel que soit leur revenu.
Ils viennent voir l'assistante.
Elle est un peu psychologue, elle est un peu juriste, elle doit orienter, elle doit comprendre, elle doit qualifier ce que disent les personnes. C'est vraiment à la croisée des chemins. Et c'est vraiment un métier pour cela qui est passionnant. Mais il faut faire attention, puisque, comme l'a d'ailleurs dit, en tant que juriste, je vais sortir ma science, la Cour de cassation, il y a déjà très longtemps, celui qui informe quel que soit le cadre et son métier, doit s'informer pour informer en connaissance de cause.
C'est clair.
En gros, il ne faut pas dire des conneries, il ne faut pas conduire les gens dans le mur. Donc, il faut faire très attention. Et c'est vrai qu'on est dans un monde hyper réglementé, où le droit est très important. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc, il faut effectivement des compétences, et ce sont des métiers qui exigent de plus en plus de compétences.
Et oui, parce qu'en fait, il faut que... En fait, ils accompagnent l'usager.
Enfin,
ils accompagnent le salarié, ses droits, ses prérogatives, en fonction de tel ou de tel...
Exactement.
Ouais, ça.
Exactement.
Et alors, justement, et vous parlez aussi dans votre livre d'un trait sur le secret.
Ah, ça, c'est...
Alors, justement, j'aimerais que vous en parliez. Vous avez un chapitre là-dessus
oui,
très
parce
intéressant.
Que, ah oui, alors pourquoi? Alors, c'est vrai...
Alors pour oui, pourquoi le secret?
Pourquoi
on
le secret
est en transparence en
non,
ce moment.
Mais, oui, ah, bon, vous avez parfaitement raison. On est en transparence et on se demande même, d'ailleurs, le secret a petit à petit été grignoté au nom d'impératifs qui lui sont supérieurs.
Sauf qu'il faut faire attention. Hein.
Oui, alors on parle de la protection de l'enfance, par exemple, on parle de la violence faite aux femmes, mais sur la violence faite aux femmes, c'est très intéressant, puisqu'on a un article du Code pénal qui a été modifié par une des nombreuses lois visant à lutter contre les violences faites aux femmes, et on avait beaucoup entendu dans les médias, ça y est, on va lever le secret médical, mais pas du tout. Et, les médecins y sont très attachés, et on a pris beaucoup de précautions pour dire, docteur, s'il vous plaît, si vous voulez bien, votre âme et conscience, dans des cas extrêmes, vous avez le droit de signaler quelque chose. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'important, mais pour en revenir simplement aux travailleurs sociaux qui sont astreints au secret, le législateur
ils
a compris...
au secret.
Alors ça les certains le sont par leur métier comme les assistants sociaux.
Par exemple, oui, les assistants
d'autres
sociaux.
D'autres le sont par leur mission comme les éducateurs spécialisés, ils le sont pas parce que le statut d'éducateur les astreint au secret mais parce que quand on travaille pour la protection de l'enfance, on est astreint au secret.
Bien sûr.
Donc à différents titres, la plupart sont astreints au secret. Et c'est quelque chose de très important parce que si le législateur a voulu qu'il y ait ce secret professionnel, c'est parce qu'il sait que vider son sac devant une assistante sociale, c'est un peu comme se mettre à poil devant un médecin. Ça veut dire qu'on va vraiment dans l'intimité. Il ne faut pas que ça se retrouve sur la place publique.
Voilà. Si on n'a pas la protection, le secret...
Exactement. Ouais. Mais d'un autre côté, vous en avez certains qui appliquent ça de manière tellement académique et de tellement presque dogmatique que ça finit par se retourner contre l'usager que ce fameux secret est censé protéger. Ça veut dire qu'il n'y a pas de travail social sans coopération et sans partage d'informations. Mais le tout est de le faire dans l'intérêt de la personne, de ne pas transmettre n'importe quoi, de ne pas partager n'importe quoi. C'est vrai dans tous les domaines. Pour vous donner un exemple, un médecin, mais ça pourrait arriver à une assistante sociale, a été condamné pour violation du secret professionnel parce qu'un patient le harcelait. Il a déposé plainte, sauf qu'il en a trop raconté dans sa plainte. Au lieu de raconter les faits, il a raconté un petit peu la pathologie.
C'est toujours une question de nuance.
Il faut faire très attention, le secret
alors, on
important.
On va continuer à parler. Si le professeur Sadler nous accorde une pause, on va reprendre bientôt.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et nous sommes toujours avec Raymond Taube, travailleurs sociaux, un livre très intéressant et très informé sur les travailleurs sociaux. Ils sont des millions et qui travaillent à ces choses tellement importantes de la relation humaine, les relations humaines, et puis l'aide avec tous les problèmes pratiques, le milieu de l'entreprise, de l'hôpital, de l'enfance, de l'assistance conjugale, etc. Et alors, autre chose de reconnaissance, c'est ce qu'il y a. Il n'y a évidemment pas de salaire unique ou de SMIC, mais au fond, les travailleurs sociaux, est-ce que la grille de salaire, elle est quoi? Elle est comment, Raymond Taube?
Alors ça, c'est vrai que c'est une question intéressante et c'est également très intéressant de comparer ça avec ce qui se fait dans d'autres pays. Mais juste en aparté, il est vrai que la première reconnaissance, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ça reste quelque part le salaire. et qu'on a des fois trop tendance en France à faire une forme de stakhanovisme. Hein, donc, vous avez réussi à sortir tant de tonnes de charbon, une ruelle au fond de la Sibérie portera votre nom. Et c'est un peu, on va revaloriser les diplômes, on va passer de la pommade, on va dire vous êtes formidable, la France vous aime, etc. Tout ça, c'est très bien. On va applaudir, mais quelque part, le salaire reste nerf de
comme
la guerre.
Comme les soignants qu'on abolissait à 20h hein, au début du confinement.
Tout à fait. Les travailleurs sociaux, certains en tout cas, ont obtenu également une légère revalorisation de leur salaire suite à ce mouvement-là. Mais il y a également autre chose, il y a le respect de leurs prérogatives, le respect de leur travail simplement, si vous voulez on en parlera, le respect par exemple du secret professionnel. Mais puisqu'on était au salaire, c'est la question que vous me posiez, si on essaie de comparer un petit peu avec ce qui se fait ailleurs. Par exemple aux États-Unis, un social worker, comme on dit, gagne rarement moins de $50,000 par an, souvent autour de $60,000. Mm-hmm. Quand on sait que l'assurance santé, c'est environ $500 par mois pour un célibataire, mais malgré tout, ça reste bien plus en net, si vous voulez, qu'en France.
Mais en France, c'est combien ?
Alors en France, on a une estimation qui a été faite. Alors il y a un site qui fait des comparaisons comme ça international, le site Glassdoor, qui évalue à 1 500 € par mois net sur 13 mois lorsque cette faveur est accordée. Le salaire moyen des travailleurs sociaux.
1 500 € par mois, net.
Oui, le problème des moyennes, c'est que pour obtenir 10, vous pouvez avoir 2 fois 10, une fois 0, une fois 20. Donc, ça prend en compte également les fonctions les moins qualifiées. Mais on reste tout de même, en général,
en moyenne,
on est en dessous de 20 000 € annuels. Voilà.
En moyenne, on est au-dessous de 20 000 € annuels.
Oui. Voilà. Donc, ce n'est pas beaucoup. Si on compare ça avec d'autres pays, ça dépend. Parce que là aussi, si vous prenez les métiers qualifiés, on peut arriver à 24, 25.
On ne peut pas. Ça ne fait pas beaucoup plus que 25.
Non. Alors, au-delà de 25, ça va être rare.
D'accord.
Si on compare avec d'autres pays, finalement, c'est Munich, on est à 23.
L'Allemagne.
Bruxelles, on est à 24. Madrid, on est à 26. À Hong Kong, on est à 37 000.
C'est marrant parce que l'Europe, c'est un peu comme la France, c'est aligné sur la France, comme la France. Hong Kong, c'est beaucoup plus.
Londres, par contre, c'est 38 000. Le coût de la vie est plus élevé également. Dublin, on est à 39. Et Dubaï, je n'ai pas les chiffres. Je ne sais pas s'il y a d'ailleurs de travailleurs sociaux à Dubaï, c'est peut-être pas nécessaire.
Il y a à voir, mais enfin, peut-être pas nécessaire.
Zurich, c'est 74 000 euros par an.
Vive la Suisse.
Oui, alors le coût de la vie...
Oui, c'est vrai, plus cher. Bon, enfin, 74 000 euros par rapport aux 20-25 000 euros, c'est pas mal.
Oui, c'est vrai que le café est à 5 francs suisses, donc quasiment 5 euros là-bas. Se loger n'est pas vraiment plus cher à Zurich qu'à Paris.
Et donc, c'est une... est-ce que c'est aussi... Alors, autre question juste, est-ce que c'est très syndiqué et encadré les travailleurs sociaux?
Alors, oui, mais vous n'avez pas le syndicat des assistantes sociales, le syndicat des travailleurs sociaux, etc. Donc c'est très éclaté et c'est souvent des sections des syndicats généralistes.
D'accord.
Donc ce qui fait que ça n'a pas le même poids, ça ne peut pas bloquer les routes, ça ne peut pas arrêter. Mais c'est vrai que si tous les travailleurs sociaux s'arrêtaient de travailler, s'il y avait une grève nationale des travailleurs sociaux... Ça ferait de gros dégâts.
Oui, si demain les travailleurs sociaux, pour des raisons de revalorisation ou autre, décidaient d'arrêter, ça ferait quand même.
Ça ferait, bien sûr. Mais bon, c'est pas vraiment non plus. C'est pas dans les tuyaux, quoi. Il y a eu quelques mouvements sociaux à la fin de l'année dernière, au début de cette année.
Mais il y avait des travailleurs sociaux parmi les Gilets jaunes, en tout cas.
Bien sûr.
Quand on en avait rencontré, pas mal de travailleurs sociaux.
Tout à fait. Mais de là à créer un mouvement national, il y a eu une tentative, justement. Ça n'a pas vraiment abouti. Au début d'année, il y a eu quelques tentatives de créer un mouvement national. On n'est pas allé très très loin de ce côté-là. Bon, est-ce que c'est souhaitable ou pas? Ça, c'est une autre question. Je ne répondrai pas à cela. Ce n'est pas une force unie. Et de la même manière, il n'y a pas un syndicat des travailleurs sociaux, il n'y a pas un ordre, il y a un code de déontologie.
Comme il y a l'ordre des médecins ou
autre. Mais ce n'est pas la même chose, non. Qui peut d'ailleurs, l'ordre des médecins ou l'ordre des avocats peut a même un pouvoir disciplinaire. Ce qui n'est pas le cas de l'Association nationale des assistants de services sociaux, par exemple.
Je comprends. Voilà. Oui, c'est plus... Et effectivement, est-ce que ça veut dire, alors juste un mot, qu'elles sont moins défendues que d'autres professions ?
Elles sont forcément, quand on n'a pas un pouvoir de nuisance dans une structure organisée, on est moins défendu. Et quand on parle de reconnaissance, la première chose, outre le salaire qui va avec la reconnaissance, c'est la visibilité. Donc, tout le monde a besoin d'un médecin. Vous disiez, tout le monde peut avoir besoin d'un travailleur social. Peut avoir besoin, mais n'a pas...
Pas forcément.
Pas forcément. Et même le médecin, on ne s'intéresse à lui que quand on est malade. Beaucoup de gens n'ayant...
Regardez, par exemple, le genre... Beaucoup de gens aimeraient, mais ils n'ont peut-être pas les moyens, mais enfin, par exemple, que leurs parents ou leurs grands-parents restent à la maison au lieu d'être dans une EHPAD, il faut une aide.
Alors là, c'est effectivement du social, mais ça pose beaucoup d'autres questions, des questions de financement notamment, d'organisation. Il y a des pays où on a mieux organisé le maintien à domicile, alors qu'en France, on s'est un petit peu trop défaussé sur les structures externes, les EHPAD, etc. Donc c'est vrai que ce serait bien de revoir ça. Alors maintenant, une vérité aussi, c'est que quand vous parlez aux travailleurs sociaux, ils vous disent tous, on a un problème de moyens. Il n'y a pas assez de moyens. Bon. Ouais. Alors, le seul problème, c'est comme les salaires, on entend ça partout. Quand vous parlez de l'hôpital, les moyens, de la justice, les moyens, de la police, les moyens, etc., etc., etc. Donc...
toutes les corporations et les professions, vous demandez plus de moyens.
Oui, alors c'est vrai, et à la fois, la France est quand même le pays qui a le plus haut niveau de dépenses sociales, sanitaires et sociales, parce que c'est englobé,
et
un grand nombre de fonctionnaires, et une part de du budget général, très important, absorbé, géré par le secteur public. On parlait de 56-57% avant la crise Covid, et on se demande un petit peu où va l'argent. Donc,
on se demande beaucoup et de plus en plus où va l'argent. On en reparle tout de suite après ceci.
Et n'hésitez pas à nous appeler au 0826-300-300 si vous-même vous êtes travailleur social, que vous vous sentez méprisé et que vous attendez une meilleure reconnaissance et notamment des services publics. À tout de suite sur Sud Radio.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
0826-300-300 pour réagir à ce sujet sur les travailleurs sociaux dont on parle sur Sud Radio avec André Berkoff et avec Raymond Taube qui les forme depuis 25 ans et qui ressent leur mal-être. Christophe de Soissons, bonjour, vous avez composé le 0826-300-300.
Christophe, bonjour. On vous écoute.
Oui,
Christophe.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour aux invités, bonjour à la team Berkoff aussi. Moi, je vous appelle parce que justement, je suis touché par le sujet parce qu'en fait j'étais ATSEM, j'étais aussi éducateur spécialisé et j'ai connu les deux mondes, les deux métiers. D'ailleurs je reprends en septembre, mais moi ça m'a touché quand vous avez dit justement qu'il y avait des gilets jaunes, parce que j'ai été gilet jaune effectivement. Personnellement, moi je suis sorti dans les manifestations parce que c'était pour lutter contre la précarisation des métiers, justement, comme le métier de l'humain, de l'ATSEM, éducateur spécialisé aussi, beaucoup. C'est-à-dire que la belle dame de la fonction publique fait une belle vitrine de ce qu'elle propose, sans dire que derrière, les contrats, ce n'est que des contrats précaires, subventionnés à 70% par l'État. Et derrière,
quand vous parlez de contrats précaires, précisément, c'est quoi? Des contrats de combien de temps, etc.
Alors, ça peut varier, parce que si vous voulez, vous avez des contrats à temps plein.
Ouais.
Vous avez des contrats, on est même capable de vous faire des contrats de 8 heures.
Ah oui, d'accord.
Et en moyenne, c'est une vingtaine d'heures, parce que c'est le même temps que les enseignants pour les écoles maternelles.
Oui.
Avec le tout ce qui est entretien derrière à faire, bien sûr. Mais c'est surtout la forme du contrat. C'est-à-dire qu'on peut vous prendre un contrat jusqu'au maximum 3 ans, puisque les contrats aidés, sont des contrats subventionnés.
D'accord. À 70%,
Voilà. Or, si je prends mon cas, moi, j'étais dans l'industrie avant. J'ai changé de vie parce que j'étais beaucoup dans l'associatif, entraîneur de foot, tout ça. Et j'ai passé donc mon CAP d'enfance et mon concours d'ATSEM, voilà, que j'ai obtenu. Et donc, seulement au concours d'ATSEM, si au bout de 3 ans, vous n'êtes pas titularisé,
oui.
Et ben en fait, il ne vaut plus rien pour commencer.
D'accord.
Mais comme les contrats ne sont que des contrats précaires, au bout de 3 ans, de toute façon, on prend quelqu'un d'autre.
Ah ouais, d'accord.
D'ailleurs, oui, moi, mon contrat s'est arrêté, s'est arrêté en fait en décembre.
Oui.
Et, enfin, pas cette année, hein, il y a une paire d'années, c'est pas comme ça.
D'accord.
Et l'année scolaire, comme vous connaissez, c'est de septembre à juillet.
Oui, bien
Or,
sûr.
On ne s'est pas soucié de savoir si les enfants, derrière, avaient été repris avec quelqu'un qui ne connaissait forcément pas, puisque de toute façon, moi, ça faisait déjà 2 ans que j'étais avec. Voilà. Le côté humain, en fait, dedans, il n'y est plus. Hein.
C'est intéressant,
plus,
hein. Christophe, justement, je voudrais faire réagir Raymond Taube. En fait, ce qu'il dit, on en parlait un peu, c'est vrai, parce que le travers social, c'est d'abord de l'humain. C'est dans la patte humaine qu'il est. Enfin, bien sûr, avec tous les problèmes de droit, etc., que vous en avez parlé. Mais on a l'impression, enfin, en entendant Christophe, que tout ça est un peu, précarité. Il a beaucoup parlé de précarité.
Oui, alors il y en a notamment dans les métiers d'assistance aux enfants, dans les écoles, etc. On en avait parlé notamment pour les enfants handicapés qu'il faut accompagner parce qu'on veut les scolariser dans une école non spécialisée, dans l'école générale.
Public, oui.
C'est vrai qu'il y a là effectivement un grand manque de moyens et qu'il y a beaucoup de précarité. Alors j'avoue aussi que moi je les connais moins puisque comme je fais de la formation dans les entreprises ou les administrations, la plupart sont titulaires. Donc je suis moins confronté à eux, mais j'ai également eu pas mal de retours comme les assistantes maternelles. Je les connais nettement moins. Mais c'est vrai qu'il y a cette grande précarité pour ces métiers-là, ces fonctions-là. Ce n'est pas le cas partout. Hein.
Bien sûr.
Faire de l'humain, c'est difficile quand on est soi-même, en quelque sorte, traité avec un manque de dignité. Et c'est ce que ressentent effectivement beaucoup de ces travailleurs sociaux.
Christophe, oui, vous vouliez...
Alors oui, aussi, je voulais vous dire, parce que comme j'ai travaillé aussi dans les IME et IMPRO, donc les instituts médicalisés pour soit les jeunes enfants, soit les ados adultes.
Oui.
C'est pareil, si vous voulez, j'avais pas la formation. Bon, on a pu me prendre parce qu'effectivement, je travaillais déjà avec, entre guillemets, de l'enfance. Et j'ai effectivement travaillé avec des petits-enfants aussi. Mais faut savoir aussi que c'est un véritable fourre-tout. C'est-à-dire, j'entends par là que les gens qui passent leur diplôme d'éducateur spécialisé... C'est des gens avec des connaissances, c'est des gens avec effectivement de l'empathie, tout ce qu'il faudrait. Mais le problème, c'est que, si vous voulez, ce qu'on a devant, c'est que c'est des entreprises qui vous proposent, entre guillemets, c'est de la production. Parce que moi, j'avais eu le rôle d'un peu de grand frère, si vous voulez. On ne soignait pas des cas autistiques, par exemple, pour vous dire, hein, avec différents spectres d'autisme.
Oui, je comprends.
On gérait du social, effectivement. On gérait.
Oui, alors, il y a une confusion entre le médical et le social, c'est ça. Et
vous, en fait, c'est une confusion volontaire, puisqu'il faut, il faut désengorger d'autres organismes.
D'accord.
Donc, quand vous pouvez loger des enfants ou des gens, ça sert un peu de boîte. Et les gens ne s'y retrouvent plus. Hein, les gens ne font plus le métier à cœur, ils font leurs 8 heures. J'ai envie de vous dire, ils travailleraient à la chaîne, ça ne serait pas pire.
Oui, oui. Fonctionnalisation de la chose. Merci Christophe, merci pour votre témoignage.
Merci M. Berco, et merci à votre invité aussi.
Merci.
Merci beaucoup Christophe d'avoir appelé au 0826 300 300 et tout de suite on accueille Jean de Paris. Bonjour Jean.
Oui, bonjour Jean.
Bonjour. Oui, voilà, je voulais intervenir parce que j'entends votre invité parler de ces travailleurs sociaux de manière assez générique et assez sympathique. Mais je voudrais signaler déjà à vos auditeurs, et puis bien sûr avoir une réaction aussi, M. Taube, à des précisions ou une appréciation sur ce que j'appellerais tout un pan en fait assez noir du travail social et en particulier tout ce qui est dans la sphère de la justice familiale où on a affaire à des enquêteurs sociaux, etc. Alors des enquêteurs qui sont en réalité pratiquement tout le temps des enquêtrices vous voyez où je veux en venir, et qui en réalité sont un peu les exécuteurs des basses œuvres des juges aux affaires familiales, qui sont elles-mêmes des femmes dans 95% des cas, et qui à peu près systématiquement font des rapports en faveur des mères et en défaveur des pères.
Ouais.
Alors ça c'est quelque chose, alors que, comme vous vous en doutez, puisqu'il y a à peu près la moitié de divorces, c'est pas anecdotique, ça concerne une population extrêmement importante de citoyens, avec tous les enfants qui vont derrière d'ailleurs, pour faire bref, sont largement ou totalement privés de leur père. Il y a aussi tout le secteur, alors que je connais personnellement un petit peu moins bien, mais enfin, vous aurez certainement des gens qui pourront aller dans ce sens-là, sur toutes les notions de placement d'enfants. Mmh. Alors je suppose que les enfants qui font ça rentrent dans la catégorie des travailleurs sociaux. C'est un formidable gagne-pain pour eux, hein, puisque quelqu'un qui accueille un enfant comme ça, via les conseils généraux, ont un revenu de à peu près de près de 6 000 euros par enfant. Des gens très au courant, y compris un ancien de ce secteur-là, a dit que à peu près la moitié de ces placements d'enfants étaient injustifiés. Voilà, donc je voulais signaler
d'accord,
ça.
Oui, vous avez écouté le côté un peu beaucoup négatif de la chose. Alors vous parlez de deux choses, effectivement. La question, mais c'est intéressant, parce qu'il faut en parler, on parle toujours de la parité à juste titre, qu'il y a moins de femmes que d'hommes dans un certain nombre de professions. Là, dans d'autres professions, il y a effectivement une majorité assez écrasante de femmes. Je ne dis pas que ça change la donne, mais enfin, selon Christophe, ça peut poser problème. Je résume ce que je dis. Et puis, l'affaire des placements d'enfants.
Ouais.
Est-ce qu'il n'y a pas, en fait, des vitesses très différentes avec tout ça ?
Oui, là, on est sur des sujets très délicats, très controversés, très polémiques.
Très réel.
Oui, mais on s'écarte un peu quand même des travailleurs sociaux parce qu'ils ont leur rôle là-dedans. Mais la question du juge d'affaires familiales, vous savez, vous allez en première année de fac, dans l'amphi, vous avez 90% d'étudiantes.
Hein, ouais.
Donc les métiers, ce sont des métiers qui attirent davantage de femmes que d'hommes. Donc, par contre, parfois, il y a un plafond de verre, ça veut dire que les chefs de juridiction sont plus souvent des hommes que des femmes. Mais enfin, c'est un autre sujet. Maintenant, sur la question, est-ce que, parce que le juge est une juge aux affaires familiales, et je les connais bien également pour avoir travaillé avec des JAF, des juges aux affaires familiales, des avocats spécialisés en droit de la famille, etc., est-ce que systématiquement, ils vont prendre le parti de la mère ? C'était peut-être vrai à une certaine époque, mais c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, donc je ne suis pas d'accord avec ce que dit notre auditeur. Alors, c'est parfois le cas, et quand on entend, par exemple, les personnes qui sont dans les associations comme SOS Papa, ou qui, vraiment, c'est... Bon, moi, je comprends tout à fait, parce qu'on ne peut pas couper un enfant en deux, c'est pas le jugement de Salomon.
Et puis on voit le drame que ça,
exactement,
que ça fait,
donc,
que ça provoque. Oui.
On essaye d'organiser ça sous forme de ce qu'on appelle la résidence alternée, la garde alternée, ou de faire en sorte que les deux parents, faire une espèce de co-parentalité. Mais on ne peut pas empêcher les gens de se séparer, il y a de plus en plus de divorces, c'est comme ça, c'est la réalité de la vie. Et en général, l'enfant va habiter avec l'un de ses deux parents, surtout lorsqu'ils sont assez éloignés. Donc je n'ai pas le sentiment que ce soit si systématique que ça, que les juges femmes donnent raison aux mères. Il faut aussi savoir que dans la grande majorité des cas, les pères ne demandent même pas ce qu'on appelle, entre guillemets, la garde, l'attribution de la résidence habituelle de l'enfant. Et certains, il faut bien dire les choses, se réveillent au moment du divorce. Donc, je serais moins catégorique. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir...
Il peut exister, enfin, alors, ça existe, évidemment.
Mais vous avez une question qui se pose toujours, à laquelle on a pas vraiment répondu de manière définitive. Est-ce qu'il y a une propension naturelle dans le règne animal, comme chez l'homme, à ce que la mère materne davantage soit plus proche de petits-enfants ? Parce qu'on constate qu'effectivement, des enfants en bas âge, de moins de 3-4 ans, sont presque toujours confiés à leur mère. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que ça correspond à une réalité ? Je ne sais pas. Je ne veux pas répondre. Je ne sais pas.
Ça, c'est une grande question biologico-anthropologique.
Voilà. Et je n'ai pas ces compétences. Sur les questions de placement.
De placement d'enfants, oui.
Vous savez, une loi a été votée encore très récemment. C'est une des dernières lois du premier quinquennat Macron. pour responsabiliser et à la fois reconnaître davantage tout en responsabilisant les accueillants familiaux, parce que les enfants sont placés comme ça dans des familles d'accueil. Et il y a des livres qui ont été faits sur la question, notamment par le pédopsychiatre Maurice Berger, qui dit que
qui est brillant, nous l'avons reçu à
tout
plusieurs reprises,
qui dit que la protection de l'enfance est une catastrophe, qui note que la plupart des enfants qui sont passés par les l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, finissent dans la délinquance. Il oublie peut-être de dire que se passerait-il s'il n'y avait pas cette protection de l'enfance, qui dit qu'en France, contrairement à d'autres pays, on a tendance à privilégier le lien biologique. En gros, mieux vaut avoir un père cinglé et malfaisant ou une mère cinglée et malfaisante qu'une famille d'accueil. Et à la fois, il critique, et à juste titre, également les familles d'accueil, disant que ceux qui s'y passent, maltraitance, etc.
Il n'y a pas de solution miracle.
Exactement,
solution
c'est très compliqué. Il faut savoir qu'en Angleterre, une baffe et on peut vous enlever l'enfant, quoi. Et donc le placement est beaucoup plus rapide. En France, c'est moins le cas. Mais c'est vrai qu'au niveau de la formation, de la sensibilisation, de la responsabilisation, peut-être que les familles d'accueil devraient être davantage. Voilà, là, il y a peut-être un petit problème quelque part. Effectivement.
On va continuer d'en parler après cette petite pause et toujours avec vous, Augustin, les auditeurs du Sud Radio.
Et effectivement, les auditeurs du Sud Radio peuvent appeler au 0826-300-300, c'est pas grave. Augustin revient très très vite, André. Ah, la semaine prochaine, il sera de retour.
C'est
des habitudes, mais évidemment, il n'y a aucun problème. À tout de suite sur Sud Radio.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Travailleurs sociaux sont-ils méprisés en France? On continue à en parler avec Raymond Taube. Vous formez des travailleurs sociaux depuis 25 ans. La parole est aux auditeurs et à Françoise Dallès. Bonjour Françoise.
Oui, bonjour
Françoise.
Bonjour, voilà. Ben, je voulais d'abord vous remercier pour votre émission. Je suis là depuis les élections présidentielles.
Ah bon.
Mon frère m'avait dit que c'était génial et je trouve que c'est une formidable tribune
de
liberté.
Votre frère avait raison et vous aussi.
Oui, voilà. Donc je voulais réagir, moi, parce que je suis en fauteuil roulant. Donc j'ai un handicap neurologique qui s'est aggravé il y a quelques années. Et donc je suis en fauteuil roulant et j'ai eu affaire, d'abord par rapport à mes séjours à l'hôpital, aux assistantes sociales. Je trouve que généraliser, c'est pas une bonne chose, jamais.
Vous avez raison.
Mais dites
ce que vous avez ressenti, bien sûr, c'est important, Françoise.
Ce que j'ai ressenti, c'est...
À l'hôpital, surtout, c'est à l'hôpital que vous avez...
C'était pour préparer mon retour à domicile.
D'accord.
J'ai l'impression d'être un peu infantilisée. Comme si je ne savais pas du tout me débrouiller, alors que j'ai mon bac, je suis secrétaire médicale, secrétaire trilingue, animatrice en milieu médicalisé. Donc je me suis sentie totalement infantilisée. Quand on est dans l'aide à la personne, peut-être qu'on est tellement dans l'aide qu'on bascule dans l'assistanat. Et que c'est forcément parce qu'on est en fauteuil roulant qu'on ne peut pas se débrouiller. Vous voyez ce que je veux dire?
Exact, oui, je comprends très bien.
Et puis, en même temps, donc, j'ai passé mon diplôme de secrétaire médico-social. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est lié, c'est médico-social.
Et social, bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
J'ai travaillé un petit peu à la DAS et j'ai été un petit peu dégoûtée. Je pense qu'il faut aider, c'est normal qu'il y ait des sommes qui soient allouées aux personnes en difficulté, mais je trouve qu'il faudrait accentuer sur l'autonomie, essayer d'autonomiser les gens au lieu de les assister. Alors je pense qu'il y a certaines personnes chez qui on ne peut pas le faire, qui n'ont peut-être pas la faculté intellectuelle pour s'autonomiser, mais au lieu d'assister à tout va, autonomiser avant. Et puis, je voulais aussi vous dire que par rapport au sujet que vous avez abordé, là, par rapport à cette petite ville qui a tant de problèmes de communautarisme.
Oui.
Donc, la Grand Combe, c'est tout petit. Hein. Je disais à Augustin que c'est une ville qui s'est bâtie au 19e siècle parce qu'il y avait du charbon
du
dans
charbon,
le sol.
Oui. Ouais. Oui, oui,
donc, on a eu une grave crise économique. Il y a beaucoup de chômage, mais disons qu'il y a... C'est... Ici, il y a de tout. il y a des Polonais, il y a des Siciliens, il y a des Maghrébins.
Quand vous êtes ici, chez vous, c'est ça?
Oui.
Et vous êtes de quelle ville exactement?
Moi, je suis sur la Grande Combe, à côté d'Alès, à 15 km
d'Alès.
Et dans mon quartier, donc c'est une toute petite ville de 5000 habitants.
D'accord.
Et on vit, avec ma voisine, on vit vraiment, c'est formidable. Alors justement, pour en revenir aux services sociaux, je n'ai pas droit, même si je suis en fauteuil roulant, que ma mère est très âgée, qu'elle ne peut pas m'aider, qu'elle est dépendante aussi.
Oui,
je n'ai pas droit à une aide ménagère. Donc, c'est ma voisine qui m'aide ponctuellement, qui m'aide tous les jours. Et je crois que sans elle, ben, je ne sais pas, je ne serais pas là, je serais, hospitalisée. Donc, je voulais vous dire que quand on se respecte mutuellement, moi, je suis protestante, je vis ma foi très librement, et elle aussi, son père était imam, mais elle vit sa foi très librement. Et
voilà, entre protestants et entre musulmans, quand on se respecte, on s'entend et
rapports,
tout va bien.
Voilà, c'est même pas de voisine à voisine, c'est de sœur à sœur. Donc
très important, François, ce que vous dites, et je vous remercie de le dire. Mais je voudrais revenir justement avec Raymond Taube. Je crois que Françoise pose une question fondamentale et qui n'est pas facile aussi, c'est vrai. C'est qu'on ne peut pas évidemment tracer une ligne claire, ça dépend des cas à chaque fois. Mais autonomisation ou effectivement assistanat, c'est capital. Est-ce que infantilisation ou apprendre à se débrouiller?
Alors, je dirais qu'une assistante sociale qui fait de l'assistanat, peut-être quelque part n'a pas compris son métier, ou alors on lui laisse pas faire son métier comme elle le veut, parce qu'on est malheureusement dans une gestion comptable. Le but même du travail social, c'est le contraire de l'assistanat. C'est justement le retour à l'autonomie, là où c'est possible. Alors c'est vrai qu'en gériatrie ou dans certains secteurs de psychiatrie, on travaille
bien
pas
sûr,
sur ça.
En soins palliatifs, voilà. On va pas parler de
exactement.
Ça, bien sûr.
Mais sinon, le but, c'est justement ça. C'est pas l'assistanat, c'est la méthode du carnet de chèques. C'est-à-dire que l'on va attribuer des aides. Alors il en faut. La France peut s'honorer d'être un pays où les soins sont à peu près gratuits. Donc ça, c'est très bien. Mais sinon, le travail social, l'accompagnement social, c'est un travail au retour à l'autonomie. C'est absolument fondamental, c'est le contraire de l'assistanat.
Vous voyez, Françoise a dit que oui, quand elle était à l'hôpital, alors qu'elle avait ce qu'elle avait, on la traitait un peu comme une enfant.
Oui,
en tout cas, on l'infantilisait.
C'est que l'assistante sociale ne faisait peut-être pas de ce point de vue-là parfaitement son boulot, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est vrai aussi, ensuite, ça rejoint les questions des moyens, des pressions, etc., la gestion comptable. Ça veut dire qu'on doit faire pas forcément du chiffre dans ce domaine-là, mais il faut vite, le précédent auditeur le disait aussi, il faut faire de la place pour d'autres, etc. Ça me rappelle d'ailleurs ma première formation dans un hôpital psychiatrique pour des assistantes sociales, où moi j'avais en tête le film « Vol au-dessus d'un nid de coucou », en disant quand on rentre là-dedans, on n'en sort pas, et elles m'ont expliqué « Mais monsieur, vous ne connaissez pas du tout, c'est exactement le contraire. Les gens n'ont même pas le temps d'être soignés qui sont déjà dehors. » Voilà, et c'est un petit peu la même chose, ça veut dire que à la fois une assistante sociale dans son intervention doit garder un minimum de recul, il ne faut pas qu'il y ait non plus trop d'empathie, il ne faut pas qu'elle souffre comme le médecin, s'il souffre avec son patient, ça ne va pas le faire. Mais la déshumanisation, la gestion comptable, j'ai tant et tant de temps pour faire ça, ensuite il faut que je passe à autre chose, ça peut conduire à cela effectivement, et ce que dit notre auditrice est malheureusement quelque chose qui peut être ressenti, mais ça c'est, vous savez, il y a des gens, il y a mille manières de faire son travail dans n'importe quelle profession, certains le font mieux que
mais
d'autres.
N'oublions pas l'autonomisation, n'oublions pas le libre-arbitre et n'oublions pas qu'on est là pour rendre la liberté. Enfin, pour en tout cas, le plus possible.
Merci beaucoup Françoise d'avoir été avec nous sur Sud Radio et on termine avec une question rapide de Jocelyne de Marseille. Bonjour Jocelyne.
Bonjour Jocelyne.
Bonjour et merci à vous de me faire participer à votre émission. Donc j'ai 55 ans et je suis travailleur CESU. Donc, au chèque emploi universel, j'ai 9 employeurs, je fais 40 heures de travail par semaine, je n'ai aucune pause dans la journée, j'ai 9 maisons en tout donc.
9 maisons,
voilà. 9 maisons, et j'ai 55 ans. Donc, je cavale toute la journée pour avoir un salaire décent. Et bon, ça va, je m'en plains pas, hein. Je travaille beaucoup, mais je m'en plains pas. Par contre, ce que je trouve, les employeurs n'ont aucune information sur les droits de l'employé. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, ils n'ont plus besoin de vous, ils vous disent, à partir de la semaine prochaine, vous venez plus travailler.
Ouais.
C'est très très mal encadré, ils ne sont au courant de rien, sauf qu'ils peuvent déduire de leurs impôts. Oui. Voilà. Après, s'ils nous disent, par exemple, la semaine prochaine, on n'est pas là, vous venez pas, vous perdez vos 3 heures, vous perdez vos 4 heures, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. C'est pas tout à fait de leur faute non plus, parce qu'ils sont pas au courant. On ne signe aucun contrat. Ouais. Voilà.
Ouais, merci, oui, merci de le dire, François. En fait, ça, c'est tout le problème, et il faudrait faire une autre émission, on en fera, sur les failles, les trous dans la raquette. Parce qu'il y en a des trous dans la raquette. Je crois. Écoutez, Raymond Taube, lisez ce livre, Travailleurs sociaux, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur ces millions de personnes qui nous aident et qui sont là pour nous aider.
Et effectivement, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Raymond Taube. À quand effectivement l'arrêt du mépris des travailleurs sociaux,
la reconnaissance
voilà, quand une vraie reconnaissance des travailleurs sociaux. Demain sur Sud Radio, on traite avec Younma Gemayel, fille de Béchir Gemayel, auteur de ce livre Béchir Gemayel, avec Emmanuel Pézé aux éditions Pardès. Et tout de suite sur Sud Radio, Brigitte Lahaye, comment surmonter l'infidélité dans le couple. Elle reçoit Jacob Azeroual, psychanalyste et psychothérapeute.